Bonjour à tous, merci d'écouter France Culture. Il est tout juste midi, dans quelques instants ce sera la grande table, la première partie suivie du journal à 12h30. Quelques titres par Antoine Mercier de ce journal. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. L'ancien ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, lance aujourd'hui à Berlin un nouveau mouvement, un mouvement pan-européen pour, dit-il, œuvrer à la démocratisation de l'Union européenne. C'est Annabelle Grelier qui nous en parlera tout à l'heure. On parlera aussi des primaires aux États-Unis. Après l'Iowa la semaine dernière, c'est au tour du petit État américain de New Hampshire de voter pour ses primaires. Donald Trump chez les Républicains, Bernie Sanders pour les Démocrates sont donnés favoris. Le RSA, le revenu de solidarité active, peut-il être conditionné à l'exercice d'une activité bénévole? Le conseil départemental du Haut-Rhin avait pris ces derniers jours une délibération dans ce sens. Impossible, affirme la ministre Marisol Touraine, car ce droit est défini nationalement et une collectivité donc ne peut pas remettre en cause les conditions d'attribution. C'est un dossier qui sera traité par Anne-Laure Chouin. Et puis on parlera de l'offensive russo-syrienne sur Alep qui se poursuit. Les troupes de Bachar el-Assad se trouvent pour la première fois depuis 2013 à une vingtaine de kilomètres maintenant de la frontière turque. Les camps de déplacés du côté syrien sont saturés en raison de l'afflux de dizaines de milliers de personnes qui fuient les combats. On retrouvera sur place notre correspondante Géraldine Allo. Et puis il y a eu un accident très grave en Allemagne, un accident de train, l'un des plus graves de ces dernières années. Un violent choc frontal survenu dans le sud de l'Allemagne entre deux trains régionaux qui a fait au moins 8 morts, une centaine de blessés. L'invité de la séquence interview, Cécile Duflot, qui sera en direct de l'Assemblée, coprésidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Dans la dernière partie, peut-être Caroline ou la première?
Oh, mais l'ensemble en fait, l'ensemble Antoine, parce que c'est une spéciale Irak aujourd'hui dans la grande table. En dernière partie, nous accueillerons le cinéaste Abbas Fadel, dont le documentaire Fleuve, Homeland, Irak, année zéro, sortira en salle mercredi, c'est-à-dire demain. On hésite toujours à parler de chef-d'œuvre quand on en voit un, mais franchement, on ne ressort pas indemne de ce film monumental qui raconte le pays d'avant la chute de Saddam et d'après l'intervention américaine, à travers ses habitants qui se trouvent être des amis, des membres de la famille du cinéaste. C'est un film absolument formidable. Il y a ceux qui sont restés et puis il y a ceux qui sont partis. Dans la première partie, puisque c'est une spéciale Irak, nous allons parler de l'Irak dans l'œuvre d'une femme d'ici et de là-bas, comme tout à l'heure avec Abbas Fadel. Nous parlerons de l'Irak dans l'œil d'un homme d'ici et de là-bas. La graffeuse quand dans le tiroir de sa mère il tombe sur un gros cahier rose qui attire son regard. Sur la couverture, un mot en arabe qu'il ne comprend pas. Quand il lui pose la question, elle répond que c'est son recueil de poèmes prêt à l'impression. C'est quoi le titre? Tachari. Ça veut dire quoi? En arabe classique, dispersé. Et ça veut dire, ils se sont dispersés comme les plombs d'un fusil qui partent dans toutes les directions. Maman, tu écris des poèmes sur les armes et les plombs de carabine? Ce sont les miens qui se sont dispersés dans les pays du monde entier comme les plombs d'un fusil de chasse. Bonjour Enam Kachachi.
Bonjour Caroline.
Je viens de lire un très court extrait de votre roman « Dispersé » au pluriel, traduit de l'arabe par Françoise Abal et paru aux éditions Gallimard. Dispersé, eh bien c'est votre peuple irakien. C'est le peuple que vous décrivez dans ce roman. Vous, vous êtes en France depuis 1979. Est-ce que vous avez le sentiment, pour avoir écrit ce livre, que effectivement votre famille et votre peuple est dispersé aux quatre vents?
Ils sont vraiment dispersés. Pas seulement ma famille. Il y a un cinquième du peuple irakien qui est maintenant dispersé partout. Et quand je dis partout dans le monde, c'est vraiment partout dans le monde. Depuis la Nouvelle-Zélande jusqu'au Asie, l'extrême pays d'Asie.
En passant par Dubaï, par le Canada, par Haïti en tout cas, et par la France bien sûr.
Oui, oui. Chaque famille maintenant irakienne, elle a des membres qui sont partis très très loin, et c'est vraiment difficile d'imaginer une rencontre familiale complète un jour.
Vous êtes journaliste et écrivaine. On se rappelle de votre premier roman paru en 2009, « Si je t'oublie, Bagdad » aux éditions Liana Levy. Ce roman-là, dispersé, vous le portez en vous depuis longtemps ?
Oui, en fait, si je t'oublie Bagdad, c'est mon premier roman traduit en français. J'ai d'autres romans en arabe. Je suis journaliste d'abord, comme vous avez dit, et j'ai resté 40 ans sans penser d'écrire un roman. Mais les événements en Irak, je les appelle le tremblement de terre, ça veut dire l'invasion américaine. C'était un tremblement de terre qui m'a vraiment secouée, et j'ai senti que le journalisme, les articles, les reportages, les éditoriales, ça ne suffit jamais à décrire le cri que j'avais dans mon esprit, dans la gorge. Et il paraît que le roman, c'était une sorte d'évacuation et de raconter les quotidiens des Irakiens. Parce que qu'est-ce que je vois quand je regarde la télé depuis des années, depuis une vingtaine d'années ici en France? L'Irak, c'est un pays de destruction massive, c'est un pays de guerre, c'est un pays de privation, c'est un pays d'armes chimiques, c'est un pays de toutes sortes de massacres et des cimetières collectifs. Alors, à un certain moment, j'avais vraiment pas honte, mais j'étais inquiet pour mes enfants. Depuis des années, je leur raconte l'Irak, un pays formidable, le berceau de la civilisation, pays moderne, riche, agréablement accueillant. Et ce qu'ils regardent à la télé, c'était tellement différent. Il fallait que j'écris, il fallait que je raconte l'Irak que j'ai connu et qui est maintenant en train de disparition.
Oui, c'est un monde disparu, mais vous dites en train de disparaître, ce que vous racontez là, puisqu'il s'agit d'une femme dont vous parlez, hein, qui est une héroïne, qui arrive à Paris alors qu'elle a 80 ans, on la voit arriver en fauteuil roulant. Elle arrive à Paris parce qu'elle a été obligée de fuir l'Irak alors qu'elle y a passé 80 ans, à vrai dire.
Oui.
Et en fait, elle raconte à sa nièce, qui est à Paris et qui l'accueille, sa vie. Sa vie dans les années 50, sa vie de toujours, elle traverse le siècle et elle raconte sa vie de docteur. Elle est gynécologue, obstétricienne.
Oui.
Et donc c'est ce monde-là qu'elle a laissé derrière elle. C'est l'idée d'un monde disparu.
Oui, surtout elle raconte ça pas seulement à sa nièce, au fils, jeune homme de 16 ans, de cette nièce, parce que cette dame, ça représente pas seulement l'Irak. Sur la couverture, il y avait un bandeau en rouge qui dit que c'est l'exil des chrétiens d'Irak. Pas simplement les chrétiens. Tout l'Irak, je trouve, il était exilé de lui-même. Il a quitté sa terre natale pour aller disperser. Il a perdu ses valeurs. Alors, cette dame, ça représente l'Irak où on vivait en harmonie avec toutes les religions, toutes les communautés, toutes les origines. Et sa parcours était vraiment remarquable. Et malheureusement, à l'âge de 80 ans, elle était obligée de... Elle n'a jamais imaginé un jour qu'elle sera réfugiée ou exilée. Mais c'est arrivé.
Inam Kachachi, vous disiez que vous aviez porté ce livre avec un cri dans la gorge qu'avait représenté pour vous le tremblement de terre de l'invasion américaine en Irak. Et pourtant, ce livre ressemble beaucoup moins à un cri qu'à une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour à ce pays déclaration d'amour et peut-être aussi un roman effectivement qui parle de cette condition d'exilé, puisque votre personnage principal, Wardiya Iskandar, fuit son pays, se retrouve dans une situation comme celle de ses enfants, qui sont donc dispersés aux quatre vents, qui au Canada, qui à Dubaï, qui en Haïti, qui en France, où elle arrive. C'est cette condition d'exilé aussi que vous avez voulu regarder de près.
Oui, vous savez, le cri d'une femme, ça peut être tendre aussi. Ça peut, c'est pas agressif. Je suis jamais agressive dans mes écritures. J'essaye de raconter le doucement de l'Irak d'avant, comment notre vie était vraiment douce. Et mes enfants ici chantent Douce France. Et moi aussi, je sais que Douce France, mais douce l'Irak d'avant. Malheureusement, cette dame, elle arrive ici comme réfugiée. Elle est traitée comme telle. Et pourtant, l'office qui accueille les immigrés, les agents sont étonnés de trouver des immigrants un peu différents des autres. Des médecins, des ingénieurs, des universitaires. Pourquoi ces gens qui ont vécu très bien dans leur vie, ils n'étaient pas pauvres, ils avaient leur maison, ils ont leur diplôme, pourquoi ils fuient un pays? Parce que le pays est devenu une sorte de, qui dit à tout le monde, dégagez, partez. Une personne normale ne peut pas continuer à vivre dans telles conditions. Voilà.
الورد جميل جميل الورد الورد جميل جميل الورد الورد جميل ولوه أوراق عليها دليل من الأشواق إذا أهدى حبيب لحبيب يكون
La voix d'Oum Kalsoum qui résonne notamment dans votre roman Inam Kachachi dispersé. Les belles roses, elles chantent là, Alward Garnil. Revenons un instant sur les femmes, parce que vous aviez consacré, alors cette fois en tant que journaliste, un livre aux paroles d'Irakiennes en 2004, livre qui racontait le drame irakien, raconté par des femmes, écrit par des femmes. Est-ce que le fait de, à nouveau, consacrer ce roman cette fois à des femmes était, faisait partie pour vous de ce cri que vous vouliez pousser?
Qui peut garder la mémoire si, sinon les femmes? Les femmes, elles racontent la vie de l'intérieur, de leur maison. Parole d'Irakienne, c'était entre guillemets une sorte de littérature de résistance. Mais vous savez, en Irak, à l'époque d'ancien régime, c'était impossible de raconter les choses librement, d'être protesté ou opposé au régime. Les hommes, tous les hommes, étaient obligés de partir faire la guerre. Entre l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 55 ans, même 60 ans, ils étaient démobilisés dans la guerre. Ce sont les femmes qui ont raconté leur désespoir. C'est pas quelque chose de dire je suis contre, je suis à bas le régime, non. Mais ils ont raconté leur comment la guerre l'ont touché dans leur chair, l'immigration, la manque, la solitude, la peur, la perte des êtres aimés. Et c'est ça la littérature qui m'intéresse à moi. Ce n'est pas les paroles, ce n'est pas les slogans, ce n'est pas le « Abba, vive Saddam » ou « Abba, Saddam ». Ce n'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est la vie de ces gens qu'on essaye, qu'on les regarde dans les journaux télévisés sans savoir leur nom, sans raconter leur vie. Ce sont des innocents, mais ce sont chaque visage et là toute une vie derrière lui. Et c'est mon rôle, je trouve, c'est mon rôle de chercher et de creuser leur vie et de les mettre sur papier et pour dire aux lecteurs étrangers, européens, que nous existons. Il suffit de nous regarder. Vous allez trouver des vies qui ne sont pas tellement différentes que les vôtres.
Wardia, votre héroïne gynécologue obstétricienne, docteur d'ailleurs, comme toutes les femmes de la famille, en tout cas sa fille, Hinda, qui a fait comme lui, comme elle, qui a suivi des études de médecine et qui est devenue médecin. Wardia nous raconte cette vie de l'intérieur. Elle raconte à sa nièce et à son petit-neveu, donc, son travail, ses expériences, comment elle est devenue docteur, comment elle a obtenu son permis de conduire dans un pays où les femmes ne conduisaient pas. Elle raconte son mariage, elle raconte la naissance de sa fille, de ses fils. Et puis elle raconte aussi la fois où une femme portait sur elle une ceinture d'explosifs à l'hôpital quand elle l'a vue arriver, une autre qui risquait d'être tuée pour une grossesse illégitime. Est-ce que vous, Inam Kachachi, avec le travail que vous avez fait et que vous continuez de faire en tant que journaliste, vous vous êtes nourrie de toutes ces expériences que vous aviez lues, entendues, de ces paroles d'Irakiennes pour construire à la fois ce personnage de Wardia et ces histoires qu'elle raconte?
Bien sûr que je suis le résultat de toutes ces femmes qui ont milité depuis le premier moitié du XXe siècle en Irak. Quand on parle d'une héroïne de roman, et pourtant Wardia n'avait rien de héroïque pour elle-même. Elle dit qu'elle était peureuse, elle a la larme facile.
Oui, on l'appelle la larme moyante d'ailleurs.
Oui, elle essaye de faire son travail au mieux possible pour ne pas être grondée. Elle avait peur de son hiérarchie à l'hôpital. Mais pourtant, en fin de compte, elle a fait un grand travail. Et Wardia et ses copines et ses collègues, et cette génération de femmes fortes, intelligentes, bosseuses, c'est ça qui a construit l'Irak moderne. Pas seulement les hommes, et surtout pendant les périodes de guerre. Et vous savez, nos guerres, on avait trois guerres atroces pendant les 20 dernières années. Ce sont les femmes qui ont pris la charge de garder que les institutions, les écoles, les hôpitaux, que la vie continue à tourner. Et bien sûr que ça me touche quand j'essaye d'écrire, d'être attirée par les vies des femmes plus que des autres, parce qu'ils ont combattu sur deux fronts, sur le front de bercer dans une société tout à fait masculine et l'autre front d'être eux-mêmes et de vivre leur vie et de rester féminine dans toutes les conditions.
Il y a la femme et il y a la gynécologue. Elle est docteur, ça n'est pas rien, non seulement d'être docteur là-bas, tout le livre le montre, Inam Kachachi, mais le fait aussi qu'elle soit gynécologue obstétricienne, ça avait sans doute un sens, ce choix de métier pour vous.
Oui, elle accueille les vies et pourtant elle était gynéco à une période et dans un zone rurale où les femmes refusent d'aller accoucher dans un hôpital. C'était la sage-femme, une femme illettrée qui vient faire naître les femmes dans leur domicile. Elle a dû combattre pour convaincre les femmes, les malades, parce qu'elle a soigné aussi des hommes. Quelquefois, elle était seule dans cette petite ville au sud de l'Irak. Elle qui est de Mossoul, chrétienne, non voilée, moderne, qui a mis des robes courtes. Elle travaille dans un milieu tout à fait chiite, sans aucun problème. Elle a été accueillie par les habitants de cette petite ville de Diwaniya et ils l'ont aimé. Ils l'ont vraiment adopté et elle a dû continuer son métier là-bas. Elle s'est mariée à Diwaniya, elle a eu ses enfants à Diwaniya. Elle a gardé des contacts, même quand elle a quitté le Diwaniya et retourné travailler à Bagdad. Elle a gardé les contacts avec ses anciens patientes qui viennent jusqu'au Bagdad dans un autobus une fois par semaine pour la visiter et pour la consulter aussi.
Une vie en Irak et puis une vie ou plusieurs vies donc en dehors d'Irak à travers les enfants qui sont partis. Vous racontez, Inam Kachachi, dans Dispersé, les difficultés d'adaptation de ces exilés à travers notamment la fille de Wardia qui est Hinda et qui est donc partie au Canada, partie exercer la médecine au fin fond du Manitoba. Je voudrais vous proposer d'écouter l'écrivain et poète et traducteur, essayiste Elias Sambar. Il était l'invité de France Culture en 2011. Écoutez-le s'exprimer sur le sentiment de l'exil, le sentiment double de l'exil.
Le sentiment très très fort dans l'exil, je pense, c'est un sentiment très aigu de ne pas être à sa place. Soit vous passez votre temps dans une quête stérile, très souvent, de retrouver un monde perdu, qui d'ailleurs est perdu. Soit vous vous dites, puisqu'on m'a déplacé de ma place, eh bien personne ne me fixera désormais de place. Je bouge. Et là, vous vous retrouvez dans une situation très belle, ce qui ne veut pas dire que l'exil ne soit pas aussi accompagné de tristesse, mais très très belle parce que vous perdez votre monde, mais vous pouvez trouver le monde après. Et donc cet immense sentiment de liberté du mouvement, Dans la vie et dans le monde. C'est, je pense, la grande différence entre le sentiment de perte et le sentiment de défaite. La défaite est stérile. Dans le sentiment de perte, il y a toujours l'occasion. Parfois, vous ne pouvez pas la prendre et parfois, vous savez que vous êtes privilégié d'avoir pu la prendre. Mais il est certain également qu'à un moment donné, c'est la décision vous revient, soit de vous lancer dans le monde et donc d'élargir votre planète et non pas d'être tout le temps dans cette idée quand même un peu pathologique de la nostalgie. Hein. Et au fur et à mesure que vous bougez, vous réalisez qu'en fait, vous n'avez fait aucun reniement. Au contraire, vous pouvez retrouver votre réalité en allant dans le monde, sans savoir cette idée d'une reconstitution d'un monde disparu et tout ce qui s'en va est parti. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais il faut oser un peu, à un moment donné, se jeter à l'eau pour vous retrouver, mais ailleurs.
On retrouve ce double sentiment à travers Wardia, qui reste et qui est obligé de partir, et ses enfants, Inam Kachachi, qui sont partis et qui vivent leur vie ailleurs.
Oui, je trouve que même pour moi, après tant d'années en France, ce n'était pas facile d'approprier ce sentiment d'être appartenu au deuxième pays, au deuxième patrie. J'avais toujours le mal du pays de l'Irak. Mais un jour, après des années, j'étais en voyage et j'avais le mal du pays. Et cette fois-ci, c'était de retourner chez moi à Paris. Et j'ai senti que, bon, on peut avoir deux pays, deux appartenances. Et ce n'est pas facile. Peut-être parce que j'avais une famille qui a grandi ici. J'avais un travail. J'avais un avenir quand j'étais jeune. Et j'ai continué à rester ici. Mais d'être exilée, c'est un sentiment vraiment blessant. Et surtout d'être réfugié. Réfugié pour un Irakien, c'est un peu grave parce que l'Irak, c'est un pays très riche, un pays pétrolier. Et de venir ici et d'assister aux conférences des pays, donations, qui font des donations pour les Irakiens, pour les immigrés, pour accueillir mieux les immigrés irakiens et syriens, c'est humiliant vraiment. Parce que les richesses de notre pays, elles partent dans les poches des corrompus et il y a des millions d'Irakiens qui sont en train de demander de quoi vivre dans des pays qui a elle ses problèmes spéciaux aussi. Je n'étais ni exilée, ni réfugiée. Je suis venue pour terminer mes études ici. J'ai choisi de rester ici pour quête de liberté, pour trouver d'autres horizons. Mais je sais que ce n'est pas facile pour un jeune et pour une vieille, comme on dit, d'avoir cette expérience tardive.
اشتكي من الهوى جيت لاهل الهوى اشتكي من الهوى وانا عدكم دخيل من عذاب الخبيث وانا
عدكم دخيل من عذاب الخبيث
Dans la famille d'Iskandar, le fils de la narratrice, on écoute le luth de Mounir Bachir, on écoute la voix de Salima Pacha, on écoute Salima, Afifa, Wadida, Maïda, Anouar, mais écrivez-vous, Inam Kachachi, toutes ensemble pèsent moins que Zuhur Hussein qu'on entend là.
C'est vrai, Zuhur Hussein, elle a une sorte de tristesse dans sa voix. Et la chanson irakienne, elle est connue pour sa tristesse. Et peut-être c'est l'histoire d'Irak qui était un peu triste et déprimant. C'est à cause de ça que même nos chansons, même les moments de bonheur, quand on rit beaucoup, ma mère avait souvent, et tous les mères, toute l'ancienne génération, l'habitude de dire « Oh Dieu, gardez-nous », peut-être parce que après chaque rire, il y aura des larmes. Ça, c'est dans l'esprit irakien. Et l'esprit irakien, aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup d'imagination pour raconter ça. J'ai pas besoin d'aller écouter des chansons, de reprendre les proverbes de ma mère. L'imagination dépasse, je veux dire le contraire. La réalité de l'Irak aujourd'hui dépasse l'imaginaire. Combien de cadavres il y a dans les feuilletons télévisés en France, dans les chaînes françaises? On a encore plus de cadavres chaque jour. Combien de balles et de bombes et de missiles? On a trois fois, quatre fois plus chaque jour en Irak. Et les histoires, soit des histoires tristes ou des histoires de bonheur et un peu d'espoir, on les trouve dans chaque rue, dans chaque maison. Et je trouve que tous les romanciers irakiens sont invités à raconter jour et nuit, écrire jour et nuit, mais ils arriveront jamais à contourer l'immense tremblement de terre qu'on a vécu après l'invasion américaine de notre pays.
D'où ce besoin, comme vous l'avez fait, Inam Kachachi, de consigner dans des très belles pages, où d'ailleurs le traducteur a gardé les mots arabes, les pages sur la culture irakienne, sur la cuisine, sur les saveurs, sur les odeurs, un ensemble de choses qui sont dans ce livre dispersées. Vous restez avec nous pour la deuxième partie. Vous avez vu aussi le film de Abbas Fadel dont on va parler, et on se quitte avec la musique de Mounir Bachir.
Mmh.
Je rappelle quand même le titre de votre ouvrage, Inam Kashashi, Dispersé, roman traduit de Lara par François Zabal et paru aux éditions Gallimard. On vous retrouve après le journal. Peut-être juste dites-nous les derniers mots de ce livre en arabe.
En arabe, elle dit « Tussalli wa tad'u sama'aha allati awadatha an tastajib, lakinaha la tastajib. Ama yashba'una min ad-dam » Elle veut dire « assez de sang ».
Ne sont-ils pas rassasiés de sang ?